Jai Kalun Tai Balun Kalino Sayuntaleya Hum Tale Janine Tatai Huetune Janini Tai O Paratela Hi Ukala Lina Nune Ashaya Toe
Marguerite sut très vite qu'elle n'était pas seule à s'être jetée, sans rien vouloir ni rien penser, dans cet océan débordant de lumière. Elle les reconnaissait d'emblée, ces hommes et ces femmes, qui, comme elle, étaient entrés dans la chambre nuptiale, qui savaient, aimaient et louaient dans leur être. Elle les reconnaissait à une qualité de présence, d'ouverture, d'accueil et d'abandon. Leurs âmes diffusaient autour d'elles comme un même parfum de chair, la bonne odeur de Dieu. En abandonnant la terre ferme pour la mer vague, Marguerite était devenue, de fait, clairvoyante sur les âmes. Sa chair, son cœur et son esprit se faisait clarté. Sa chair, son cœur et son esprit se faisaient voyance. Elle devinait l'ouverture du cœur et la noblesse d'âme au port d'une tête, au serrement d'une main, à l'éclat d'un regard ou au ton de la voix. Elle savait si elle avait devant elle une âme de tissu sourd et grossier, ou une âme épouse de la lumière. Elle devinait, dans sa chair, son cœur et son esprit, où les âmes demeuraient, si elles étaient à l'écoute, aimant et louant à l'unisson du cœur du vivant, si elles étaient nées et vivantes. Pour cela, il n'y avait nul besoin de langage ni de parole. Les siens, ceux de son lignage, n'avaient pas besoin de lui parler de ce royaume qui s'était révélé à eux. Parfois même, ils n'en savaient rien, tout en sachant, sans le savoir. Marguerite comprenait que ces hommes et ces femmes ne voulaient ni ne pensaient l'état de leur être. Ils étaient là, et c'était tout. Non pas ailleurs, mais présents à cet océan de lumière. Leurs gestes étaient tout simplement fluides et souples, sans armure ni bâton. Le vouloir et la pensée les avaient quittés, ne laissant plus en eux qu'un silence intérieur. Ils n'étaient pas perdus dans leurs pensées ni dans leurs rêves, absents d'une présente vie, toujours présente. Ils étaient sens en éveil, entrant en résonance, comme un trèfle à cinq sens. La noblesse d'âme transparaissait aux yeux ouverts de Marguerite, même dans les visages les plus défigurés par les épreuves et la souffrance. Même dans les mains nouées par l'arthrose, déformées par la vie, le grand âge, la vieillesse. Même dans les dos courbés et bossus. Même dans les jambes raides et les boitements de pieds. Car, en toutes circonstances, l'âme noble rayonnait, désencombrée d'elle-même, à l'écoute et toute résonance. Elle vibrait, que ce soit au soleil, au vent ou à la pluie, dans sa demeure de chair. Elle n'était jamais froide comme la mort, emmurée dans des raisonnements. Elle était chaude comme la vie, transmettant comme le feu sa chaleur. L'âme noble était un feu vivant, apportant la lumière. Elle veillait comme une lampe allumée dans la nuit. Chaque jour, Marguerite alimentait le feu dans sa cheminée pour cuire sa soupe dans le chaudron, et elle contemplait les flammes. Le feu. Le feu du Dieu vivant. Elle savait que les siens, ces âmes nobles de haut lignage, étaient tous passés par l'épreuve du feu et qu'ils en avaient été purifiés. Ils n'étaient plus seulement matière à combustion, bois sec donné aux flammes, mais ils étaient devenus, par l'action transformante du feu, flammes elles-mêmes, feu lui-même, cette force de transformation. Il brûlait vif, se donnant aux flammes, s'anéantissant dans les flammes de vie. Car ce feu qui les brûlait en lui était un feu d'amour, scellant l'union entre deux amants. De deux, l'âme et Dieu, le feu ne faisait plus qu'un. Un seul et même être, un seul et même cœur, une concorde parfaite. Que ce soit dans la salle voûtée de l'hôpital ou dans les livres de la bibliothèque, Marguerite reconnaissait les siens et apprit à voir en eux la main de Dieu. Les âmes nobles étaient comme des simples, ces plantes médicinales cultivées dans le jardin du béguinage et utilisées pour ramener à la vie. Elles étaient des âmes simples. Par leur seule présence, Marguerite savait que ces âmes sauvaient, apprenant aux personnes malades à guérir et aux personnes mourantes à mourir. Les conduisant en silence vers cette chambre intérieure, au-delà et en deçà d'elle-même, où la souffrance, les ténèbres et la mort ne pouvaient les atteindre, car y régnait la joie, la lumière et la vie. Ces âmes simples sauvaient, car le vivant agissait par elles et sans elles. Il n'y avait en elles plus aucun « il faut » à imposer de force, juste un immense « tu peux » à offrir généreusement à tous. Vivantes, elles accueillaient tout simplement la vie. Un jour de Noël, où le froid avait saisi la ville de Valenciennes, mais où la naissance de l'enfant Jésus réchauffait les cœurs, Marguerite vit en ses âmes simples la source vive de l'Église. Une sainte Église la grande, irriguant sainte Église la petite. Comme si Dieu lui-même se faisait présent sur la terre par leur entremise. Ces âmes, épouses de la lumière, étaient bien les yeux ouverts par lesquels Dieu regardait le monde. Elles étaient des yeux, des mains, des sourires, des présences, par lesquelles sa puissance de vie, de sagesse et d'amour œuvrait chaque jour, pour que le monde tourne et que les eaux des rivières se perdent dans la mer. Car ces âmes simples n'étaient plus des chercheuses de Dieu, mais des hommes et des femmes en Dieu. Ce self-un qui empêche la pêche miraculeuse de se corrompre hors de l'eau. Marguerite, qui avait toujours fait corps avec sa ville et ses sœurs béguines, se mit donc à faire corps avec ceux et celles dont elle partageait le lignage. Elle savait qu'ils se reconnaissaient entre eux. Ils étaient des miroirs l'un pour l'autre. La surface polie d'un miroir où reflétait leur nature profonde. Les âmes simples étaient des naufragés du ciel au milieu d'âmes terrestres, des vivants parmi des morts, des en Dieu parmi des égarés. Elles formaient ensemble comme un réseau de canaux d'irrigation par lesquels la source de lumière abreuvait et illuminait l'univers. Elles étaient des vivantes, c'est-à-dire des connaissantes, des aimantes, des louantes. Elles n'étaient jamais seules avec elles-mêmes, coupées des autres, de la vie et de l'univers, mais semblaient toujours traîner derrière elles une nuée d'anges, de souris et d'étourneaux. Elles étaient reliées à l'arbre de la vie. Entrer en leur présence, c'était prendre sur le visage l'air vivifiant du large, respirer l'infini et les étoiles lointaines. Toute abîmée, silencieusement en Dieu, Marguerite prit donc sa place dans sa lignée pour servir son lignage. Instant après instant, elle balançait entre le rien et le tout. La prospérité et l'adversité, une chose et son contraire. Elle épousait la vie, chantant et déchantant, avec, au tréfonds d'elle-même, une conscience aiguë de sa pauvreté. Une pauvreté qui ne mendiait plus rien, tant elle savait qu'elle ne pourrait que demeurer à jamais pauvre. La connaissance de cette pauvreté éternelle était pour Marguerite la plus grande des richesses. Elle n'était rien. Dieu était tout. En lui, elle s'enfonçait dans le rien vouloir et le rien savoir. Oublieuse d'elle-même et tout entière à lui. Brûlant intérieurement de son amour, de sa paix, de sa douceur et de sa joie. Libre dans ses actes, car innocente en tout, dans une pureté de cœur et une paix intérieure. Puisant dans son humilité, unité, sagesse et sanctification. Un jour où elle était sortie des murs d'enceinte de la ville pour porter à pied un manuscrit, Marguerite se surprit à nommer Dieu. Un nom, rien que pour elle et que pour lui. Un nom comme un secret entre eux deux. Le chant silencieux de leur intimité nuptiale. Et le nom qui lui vint sur le bout de la langue, alors qu'elle cheminait de colline en colline, était le loin près. Dieu avait pour nom le loin près. Marguerite souffrait tant d'entendre parler à tort et à travers de Dieu, dans les sermons, les enseignements et les éclats de voix sur les places de marché. De voir le nom de Dieu échapper à l'entendement des hommes, mais ce mot de Dieu être dit et médit sur toutes les lèvres, comme s'il ne restait plus que ce mot à colporter et à marchander. Dieu, une dépouille, une absence, un mot vide, où ne résonnait aucun nom en vérité. Il est vrai que ceux qui tenaient la parole dans cette sainte église la petite cheminaient le plus souvent vers Dieu. Ils ne vivaient pas encore en Dieu, mais ils le projetaient au loin. Ils s'éloignaient de lui et de son mystère à force de le projeter au loin. Dieu n'était pour eux qu'une image, un oui-dire, une terre lointaine et inaccessible, que seul le jugement de la mort permettait de rejoindre d'un bond. Ces hommes et ces femmes, qui parlaient sur Dieu, indiquaient des chemins, comme ce vieil homme édenté qui venait de lui indiquer le sien. Comme il ne savait rien de Dieu, il pouvait en parler sans savoir se tromper. Mais Marguerite, elle, n'était plus en chemin vers Dieu. Elle vivait simplement en Dieu. Elle avait plongé de toute sa chair, son cœur et son esprit dans ce royaume du vivant. Elle s'était perdue dans l'océan débordant de lumière. Elle n'était plus vers, mais en. Si indiquer un chemin vers Dieu, c'est encore l'éloigner de soi. Vivre en Dieu, c'est l'accepter au plus près et au plus loin de soi. L'accepter comme un amant subtil, une flamme de vie qui ne se laisse pas capturer, virevoltante, changeant de direction, jouant avec le vent. Ce loin-près était pour Marguerite eau vive. Il était puissance de vie, de sagesse et d'amour. Il était puissance. Comme tous ceux qui connaissent le secret de la chambre nuptiale, Marguerite savait qu'il était impossible de parler de Dieu sans se tromper. Car Dieu ne se résume pas à quatre lettres. Mais il dépasse à jamais toutes les lettres de l'alphabet, toutes les compositions de lettres, les syllabes et les mots. Dieu est le vide qui respire et qui souffle entre les lettres. Il ne les lit pas à jamais, mais il les délie à l'infini. Il les laisse jouer et se combiner au hasard pour réveiller les sens et renouveler le sens. Dieu échappe au langage et au raisonnement. Il dépasse l'entendement de raison qui n'entend pas en lui tous ses harmoniques, le chant de la lumière. Ce mystère de Dieu que raison ne savait percer. Le cœur de Marguerite le devinait par éclairs, dans l'amour, dans un flot de lumière. C'est pourquoi Marguerite, souveraine sur toute chose, se mit à prononcer ce nom de loin près. Dieu était celui qui se fait plus proche à mesure qu'il s'éloigne, et celui qui s'éloigne à mesure qu'il se fait plus proche. Celui qui ne se laisse prendre que dans la déprise. Celui qui se fait passage que dans le dépassement. Vivre en Dieu, c'était bien cheminer par mont et par vaux. Gravir la côte dont le sommet paraît tout proche, mais toujours plus loin à mesure qu'on s'approche de lui. Un loin au plus près. Au plus intime, au plus profond. Un loin près qui échappe au regard. La vision humaine ne sachant se focaliser à la fois sur le loin et le près. Ce nom de Dieu, Marguerite eut le désir soudain de le voir enseigné dans la Sainte Église la Petite comme dans Sainte Église la Grande, tout en le laissant à son profond mystère. Il n'y avait pas pour les hommes, les femmes et les enfants à cheminer vers Dieu, mais bien à vivre en lui. Et c'était cette vie divine dont Marguerite retrouvait autour d'elle le miroitement de lumière dans les feuilles des peupliers agitées par le vent qu'il fallait enseigner à tous. Apprendre aux hommes, aux femmes et aux enfants à nager en Dieu, loin de toute terre ferme, les jeter nus dans l'eau vive des rivières ou les lancer dans l'air comme un jongleur, leur ouvrir l'ouïe et l'entendement pour qu'ils puissent accorder leur cœur. La seule vérité qu'elle avait si souvent lue et recopiée dans des manuscrits était de reconnaître que Dieu était, est et sera à jamais insaisissable. Si les hommes cherchent à le connaître, il demeure au-delà de toute connaissance, car la parole humaine l'endommage et la pensée humaine enténèbre sa lumière. Dieu ne se laisse prendre que par ceux qui se déprennent de lui. Seules les âmes qui s'ouvrent à sa lumière pour oublier tout aussitôt, qui acceptent la subtilité de leur amant, en saisissent le rien. Le rien qui fait advenir subtilement le tout. Un cœur d'amour qui bat et change à chaque instant de mesure. ce Dieu insaisissable, Marguerite en saisit ce jour-là toute la puissance dans la poussière du chemin, les herbes folles des bas-côtés, les hirondelles qui tournoyaient au-dessus de sa tête, le lent défilé des nuages. Il était bien la force du courant et de l'advenir, la force des eaux vives qui coulent en source, en rivière et en fleuve. Celui qui calme et fait tempête sur terre comme au ciel. C'est à cette puissance de vie, de sagesse et d'amour que Marguerite s'abandonnait dans son désir du royaume. Elle s'abandonnait à elle pour tirer son être du Père, porter du fruit avec le Fils, s'unir à la volonté d'amour de l'Esprit. Elle acceptait de s'y abandonner sans rien savoir sur lui, sans savoir d'où il est, ce qu'il est et qui il est. Elle n'était que confiance et abandon. Parvenue sur les berges de la Ronelle, elle plongea son regard dans la rivière pour y contempler l'infini. Mais le visage du loin près sembla se diluer dans l'eau. Elle avait beau, dans son silence et sa prière, se mirer dans les eaux, la rivière engloutissait ce visage. Il ne lui restait plus qu'à se baigner, et en se baignant, à sentir la force du courant. Ce visage englouti était juste puissance de vie, de sagesse et d'amour. Puissance de Dieu, fait méandre et eau vive.